des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, une rencontre au sommet entre Leïla Slimani, prix Goncourt 2016 avec Chanson 12, qui publie Le pays des autres, la guerre, le premier tome de son grand roman marocain chez Gallimard. Et l'écrivain argentino-canadien, c'est comme ça qu'on dit ?
Oui, exactement.
Voilà, Alberto Manguel, l'homme qui faisait la lecture à Borges, romancier, traducteur et dessinateur, comme on le découvre dans son nouveau livre « Monstres fabuleux, Dracula, Alice, Superman et autres amis littéraires ». C'est chez Actes Sud. Bonjour Leïla Slimani.
Bonjour.
Vous revenez aux affaires romanesques avec « Le pays des autres », votre nouveau roman, qui est le premier tome d'une trilogie, c'est ça
en fait. Oui, tout à fait. Premier tome d'une trilogie.
Qui va vous emmener jusqu'à...
Jusqu'à aujourd'hui, j'espère.
Jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à quand en termes de publication en fait, c'est...
Je ne sais pas, mais j'aimerais peut-être publier tous les deux ans si j'en ai la force.
Donc depuis l'après-guerre jusqu'aux années...
Jusqu'aux 2020, années 2015-2016 à peu près. Oui.
C'est un roman, ou plutôt donc je disais la première partie d'un roman. Donc La guerre, c'est le sous-titre. Le pays des autres, c'est le nom de la trilogie. Et c'est un livre qui est consacré au Maroc, où vous êtes né et où vous avez grandi avant de le quitter pour la France à 18 ans. À regret, Leïla Slimani ?
Non, parce que c'était aussi une aventure, c'était une découverte. J'allais étudier dans la plus belle ville du monde, la philosophie et la littérature. Quand on a 18 ans, je pense que c'est un immense privilège de pouvoir étudier ça, d'y consacrer son temps. Donc non, j'étais dans la ville des amoureux, ce qui est aussi très bien quand on a 18 ans. Donc ça n'était pas un arrachement.
Amour et philosophie. Merveilleux couple. Alors c'est un sacré défi en tout cas que vous vous lancez et que vous nous lancez d'ailleurs en vous engageant dans cette entreprise. Donc c'est une grande saga familiale qui vous fait brasser différentes époques et qui va vous en faire brasser d'autres. Des époques lointaines parfois, en tout cas dans ce premier tome qui commence en 1944-45 lorsque Mathilde, une jeune femme alsacienne, s'éprend d'Amin Belhadj, un Marocain combattant dans l'armée française qu'elle va suivre dans son pays après la libération, donc le Maroc, d'abord à Meknès dans la famille d'Amin, puis dans le domaine des Belhadj, notre terre, comme l'avait dit Kadour, le père d'Amin, traducteur dans l'armée française, mort des séquelles de Verdun et qui voulait pour sa descendance une exploitation agricole digne de ce nom, très fructueuse, très juteuse. Sauf que voilà, le domaine en question est une terre rocailleuse où Amin va s'échiner tandis que les enfants poussent, s'il y en a deux, et que les regards n'en finissent pas de se poser sur ce drôle de couple mixte dans cette ferme isolée du Maroc, encore sous protectorat français, mais où déjà, en 46, les soubresauts de l'indépendance se font sentir. Nous allons suivre leur destinée pendant une dizaine d'années dans ce premier tome, la destinée des Belhadj et de tous les personnages qui gravitent autour, les autochtones ou les colons, les adultes comme Omar, le frère d'Amin, nationaliste, anti-français, ou les enfants comme Aïcha, qui adore Jésus, ou son petit frère Selim. C'est une famille comme un monde, qui bouillonne, où les tensions sont en train d'allumer les mèches de la violence et où rayonne cette Mathilde, française mais considérée comme une paria, cette Alsacienne, comme votre grand-mère, je crois, qui elle aussi avait rencontré un Marocain engagé dans les spahis. Vous acquiescez, les auditrices et les auditeurs ne peuvent pas le voir. Est-ce à la source familiale que vous êtes abreuvée, Leïla Slimani, pour écrire ce roman, ou plutôt cette première partie de roman ?
Oui, bien sûr, pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai eu la chance de vivre dans une famille où on racontait beaucoup d'histoires. Ma grand-mère était une conteuse extraordinaire et puis mes parents, de manière générale, nous racontaient leurs souvenirs, les histoires. Donc j'avais comme ça une sorte de panthéon.
Vous aviez pris des notes quand votre grand-mère... Elle est plus de ce monde.
Elle est morte il n'y a pas très longtemps, mais elle-même, elle avait écrit une sorte de livre de souvenirs.
C'est génial.
Et puis voilà, j'avais pris moi aussi des notes, mais ce sont des histoires tellement frappantes, tellement romanesques que toutes mes sœurs et moi, mes cousins, on les avait toutes en tête. Et puis, je pense qu'on les a transformées aussi avec le temps. Et puis, il y a aussi le fait que souvent, quand je racontais aux gens mon histoire ou l'histoire de mes grands-parents, la première réaction, c'était « Ah, mais ça, c'est un roman oui. !» Et je me suis dit « Mais c'est pas possible, tu es romancière, on te dit tout le temps ça, c'est un roman, voilà, tu as un merveilleux sujet sous la main. » Donc j'ai décidé de me pencher sur l'idée de ce couple mixte et j'ai repris évidemment des éléments de la vie de mes grands-parents, mais ensuite l'imagination a fait son travail.
Ça, c'est un mot qui va faire plaisir, Alberto Manguel, le mot « imagination ». Alors, il y a une famille hein, aussi chez vous, Alberto Manguel, mais une famille de personnages littéraires. Vous dites plutôt des amis, d'ailleurs, que les membres d'une famille. Mais moi, je vois ça comme une famille.
Comme une famille. Mais d'ailleurs, je veux ajouter par rapport à ce que Leïla disait, que nous sommes cousins, Leïla et moi. J'ai aussi des ancêtres alsaciens. Donc, je voulais dire que nous appartenons à cette
famille. Donc, c'est en famille.
Eh bien, ça ne m'étonne pas. Voilà, ça ne m'étonne pas, ça me réjouit d'avoir
mais
bien
sûr, aux amis imaginaires que je considère, oui, comme des amis, parce que bon, il y a des parents qui ne sont pas des amis. Donc, les liens sont plus forts que ceux du sang. C'est les liens de l'encre et du papier. Et je sais que, bon, à mon âge, ces tournées pour présenter des livres sont fatigantes. Mais il y a des récompenses.
Pas cet après-midi, quand même.
On verra. Voilà. On verra. Voilà. Mais en tout cas, les récompenses sont formidables. Et une des récompenses que j'ai eues cette fois, c'est de rencontrer les personnages de Leïla.
Ah, oui.
Et je suis tombé fou amoureux de Mathilde.
Ah, oui,
que
comprends.
Si je fais une suite à ces monstres fabuleux, elle fera partie. Parce que
formidable.
Mathilde est le reflet de tellement de personnages que j'aime.
Alors, je précise quand même, c'est un très bel hommage, une belle promesse que vous faites à Leïla Slimani, parce qu'en fait, ses amis en question, je vais en parler, le sous-titre hein, en donne quelques-uns, Dracula, Alice au Pays des Merveilles, Superman, donc Mathilde quand même va être bien entourée. Alors, c'est un livre qui paraît chez Actes Sud, hein, je le disais, Alberto Manguel, c'est Monstres fabuleux. Je rappelle que vous êtes né en Argentine, à Buenos Aires, en 1948, que vous êtes l'auteur de plusieurs romans, comme Dernière nouvelle d'une terre abandonnée, de plusieurs traductions, de plusieurs textes sur Kipling, sur l'Iliade, sur l'Odyssée, sur Stevenson, dont vous avez d'ailleurs fait un personnage de roman, mais surtout, vous êtes un inlassable et un passionnant explorateur et même, je dirais, un missionnaire de la façon, en fait, dont l'histoire du livre et de celle de la littérature enrichissent les consciences, enrichissent l'être humain. Depuis votre célébrissime Histoire de la lecture, qui avait obtenu le prix Médicis Essai, c'est en 96, jusqu'à La bibliothèque la nuit, qui avait même fait aussi ensuite l'objet d'une exposition. On vous doit, par exemple, Alberto Manguel, de savoir si à Cuba, eh bien, si les cigares, certains cigares, portent le nom de Monte Cristo, c'est parce qu'un lector, comme disait Umberto Eco, en faisait la lecture à haute voix aux employés des manufactures de tabac. Comme vous l'avez fait, vous, la lecture, je le disais tout à l'heure, à Borges, devenu aveugle, vous aviez 16 ans, lui, 70. On vous doit aussi l'idée d'être conforté dans une autre idée, c'est-à-dire que chaque livre, tiré d'un rayonnage et feuilleté, est non seulement un objet unique, mais toujours la promesse d'une rencontre fabuleuse. Et c'est ces rencontres fabuleuses que nous prolongeons quand nous feuilletons à notre tour votre nouveau livre. Et je disais, c'est une suite de chapitres, en fait, consacrés à un personnage de la littérature ou des grands textes sacrés, je vous interrogerai là-dessus d'ailleurs. Donc, Monsieur Bovary, et pas Madame, Le Petit Chaperon Rouge, Alice au Pays des Merveilles, Queequeg, hein, le harponneur de Moby Dick, ou Long John Silver, le pirate de l'île au trésor de Stevenson, et donc bientôt Mathilde, hein, l'héroïne de Leïla Slimani. Des personnages qui vous parlent tellement que vous voulez nous en parler et que vous les dessinez même.
Oui,
il y a des dessins, ils sont
dessinés.
Voilà, vous gribouillez, des beaux gribouillages. Pourquoi nous les confier ainsi, Alberto Manguel, ces monstres que vous appelez fabuleux, ces personnages? Comme on nous offre un peu un bouquet, quoi. C'est vous qui avez choisi les fleurs.
La métaphore est juste. Vous savez que anthologie veut dire bouquet des fleurs. Et donc, oui, tous mes livres, en quelque sorte, sont des offres pour les amis lecteurs. Vous savez, des lecteurs, quand nous nous passionnons d'un texte, nous voulons que les autres le lisent. Donc nous l'attrapons par le bras et on dit aux amis, tu dois lire ceci, tu dois lire...
Ou par le coup, comme dirait Dracula.
Oui.
Pour le coup, il est question du coup.
Mais,
voilà.
mais bien sûr. Donc oui, c'est un partage, c'est une volonté de partager.
Et pourquoi des monstres ? Alice, Pays des Merveilles, bon, Dracula, oui, mais Alice, le petit chaperon rouge, quoi.
Parce que justement, chez Alice, quand Alice rencontre la licorne lui dit « Je croyais que les enfants étaient des monstres fabuleux ». Et Alice lui dit « Mais moi, je croyais que la licorne était un monstre fabuleux ». La licorne lui dit « Ben, faisons un accord ». Si tu crois en moi, moi je croirai en toi. Et comme ça, c'est la parfaite définition de l'accord que le lecteur fait avec la fiction du texte.
Les monstres parce qu'ils sont uniques.
Monstres parce qu'ils sont antiques. Exactement. Et c'est la définition des monstres. C'est pas quelque chose de horrible, mais quelque chose qu'on montre, qui apparaît devant nous comme unique.
Et c'est par cet extrait d'ailleurs que vous ouvrez le livre, hein, votre livre, hein, donc un extrait de l'autre côté du miroir de Lewis Carroll. Et la licorne dit marché conclu. Hein. Alors. Merci à tous les deux d'avoir accepté cette rencontre. Je voudrais qu'on commence par parler de ce qui vous a donné envie d'écrire à tous les deux, c'est-à-dire peut-être les livres que vous avez lus. Je voudrais vous interroger, Leïla Slimani, sur une phrase, une très belle phrase d'Alberto Manguel. La biologie nous dit que nous descendons de créatures de chair et de sang, mais nous avons la conscience intime d'être les fils et les filles de fantômes d'encre et de papier. Et vous ajoutez, Alberto Manguel, que ces fantômes d'encre et de papier vous apprennent des choses. Le nommé jeudi dans Chesterton m'aide comme par magie à affronter les absurdités de la vie quotidienne. Priam m'apprend à pleurer la mort de mes jeunes amis. Le petit chaperon rouge et Dante le pèlerin me guident à travers les forêts obscures sur la route de la vie. Est-ce que vous croyez, vous aussi, Leïla Slimani, qui avez écrit un livre qui est aussi un livre sur la filiation, que vous descendez, comme Alberto Manguel, aussi de fantômes d'encre et de papier? Absolument. Et ce seraient lesquels?
Absolument. Et non seulement je descends d'eux, mais je dirais que je vis avec eux au jour le jour, qu'ils sont mes frères, mes sœurs, mes amants, mes mentors, mes conseillers, mes amis secrets. Ils sont très très nombreux. Il y a Pip, il y a Huckleberry Finn, il y a Oliver Twist, il y a Janner.
Alors Janner, elle vous a appris quoi, par exemple, si vous deviez...
Janner, elle m'a appris... une façon de résister à l'humiliation, elle m'a appris la noirceur, elle m'a appris le silence dans l'amour, elle m'a appris énormément de choses. Donc ces personnages vivent avec moi, je vis avec Raskolnikov, c'est-à-dire avec la violence, avec
la... Je voudrais interrompre pour dire que Janner est la sœur de Mathilde.
Et absolument, Janner est la sœur de Mathilde. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que tout à l'heure vous avez dit, oui, Mathilde de Leïla Slimani, mais en fait, ce qui est beau dans ce livre magnifique d'Alberto Manguel, c'est que quand un personnage se met à exister très fort, il perd son auteur. C'est-à-dire il n'est plus Mathilde de Leïla Slimani ou Charles Bovary de Flaubert. Il est Charles Bovary. Il existe par lui-même. Et en réalité, finalement, ce qui serait une forme de consécration pour un auteur, ce serait que nos personnages deviennent orphelins de nous, qu'ils aillent vivre leur vie ailleurs. Donc on prend un personnage et on dit au lecteur, adopte-le s'il te plaît, je ne peux plus m'occuper de lui, c'est à toi de l'adopter.
Alors c'est très intéressant ce que vous dites, parce que dans le livre de Manguel... Je me tourne vers vous, Alberto Manguel. Vous expliquez que quand Dante doit mettre en scène Virgile, justement, dans la Divine Comédie, il mentionne qu'il y a Énée, donc le personnage, mais limite parce que ça risquerait presque d'étouffer ou de dépasser Virgile.
Tout à fait, parce que Virgile est pour Dante un personnage de fiction, et donc le personnage de fiction de Virgile doit se mettre en arrière-plan et consacre à Énée deux mots. Et à Virgile, tout voilà. Ce qu'on sait dans la comédie.
Oui, parce qu'il n'y a pas besoin finalement Énée, il est tellement... on sait plus de choses sur Énée que sur Virgile,
et
au
oui,
fond, quand on est lecteur.
C'est le cas.
Oui, et puis moi j'aime bien, vous savez, il y a une anecdote de Balzac qui était en train de discuter avec un de ses amis qui vivait un moment terrible, un deuil absolument affreux, et puis au bout d'un moment, Balzac lui coupe la parole et lui dit « Bon, revenons à la vraie vie maintenant, que va-t-il arriver à Eugénie Grandet ?» Voilà. Pour nous, c'est ça la vraie vie, ce sont nos personnages.
Les personnages de fiction, au mieux de leur forme, ont l'air plus vivants que nos amis de chair et d'os. C'est encore une phrase de Manguel. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça, quand même?
C'est mon expérience dans la vie. J'ai grandi avec les contes de fées, le conte de Mille et Une Nuits. C'était ma connaissance du monde avant d'entrer dans le monde. J'ai eu une enfance très solitaire. Donc, ces amis-là qui m'ont appris le voyage, la peur, l'amitié, l'amour, même la mort. Quand j'arriverai au dernier chapitre, j'aurai les mots pour la nommer.
C'est vrai qu'on a tendance, parfois, fois à parler par exemple du roman, de la fiction, comme quelque chose de gratuit ou de divertissant, ce qui est déjà bien en soi, mais on oublie, c'est vrai, cette dimension de connaissance dont vous parlez. C'est votre combat littéraire, si je puis dire, Alberto Mangel. Est-ce que Leïla Slimani, vous croyez aussi qu'une vraie connaissance du monde ne peut passer que par les mots?
Absolument. Enfin, ça, c'est pas exclusif. Je pense qu'on a aussi besoin d'autres choses, que le cinéma, la peinture, la musique nous apprennent aussi des choses. Mais les mots et la littérature en particulier nous permettent d'accéder à ce qui fait à la fois le mystère et la profonde poésie de la vie et de la condition humaine, c'est-à-dire l'ambigu, le gris, la complexité, le fait que deux choses contradictoires peuvent cohabiter ensemble. Et ça, pour moi, il n'y a que la littérature qui nous permet ça. Et je dirais plus qu'une connaissance, moi je vois presque une dimension religieuse dans la littérature, c'est-à-dire un moment de recueillement, un moment où on est capable aussi d'avoir de l'indulgence pour la nature humaine, de comprendre ses faiblesses, de comprendre sa vulnérabilité et d'arrêter pour un instant de juger ou d'être dans un rapport purement social à l'autre. Et c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec Alberto Mangel qu'au fond, ils sont plus profonds, les personnages de fiction, parce que quand on a accès à l'autre dans la vraie vie, qu'est-ce qu'on voit de l'autre dans la vraie vie? On ne voit qu'une surface, l'autre doit survivre, donc pour survivre, on doit mentir, on doit ne montrer qu'une part de nous-mêmes, on peut pas montrer toutes nos faiblesses. Quand vous lisez, vous rentrez dans le cœur, dans le corps, vous savez des choses que personne d'autre dans la vraie vie ne vous raconterait.
Vous avez une très belle expression tout à l'heure, Leïla Slimani, vous avez dit que Janer, vous avez appris le silence dans l'amour. Qu'est-ce que signifie cette expression ?
Eh bien, moi, je crois que l'amour, comme la littérature d'ailleurs, est fondé en fait sur le silence. Je pense que ce qui fait la beauté de la littérature, c'est le choix entre ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. Et en amour, c'est exactement pareil. Je pense que ce qui fait les grandes émotions amoureuses, c'est quand on est face à quelqu'un, qu'on sait qu'on voudrait dire quelque chose et qu'on réfléchit et que finalement, on ne le dit pas. Et tout ce qui est tu, tout ce qui est retenu, c'est un art aussi de la rétention, la littérature, contrairement à ce que les gens, à ce que les gens pensent. C'est pas un art de, voilà, du déversement. On ne fait que se retenir tout le temps. Et je crois qu'en amour, c'est pareil.
Il y a une très belle phrase que j'ai lue de vous, Alberto Mangel. Elle est pas dans Monstre Fabuleux. Toute crise de société est une crise de l'imagination. Est-ce que la crise actuelle, et je vous interroge tous les deux là-dessus, que nous traversons avec énormément de violence sociale, de défiance en la politique, par exemple, viendrait donc d'un trop-plein de réel?
Ah, moi j'en suis persuadée, puis je crois qu'en fait on est dans un moment de très grande déception civilisationnelle, c'est-à-dire que ça fait 100 ans qu'on nous dit qu'on est une grande civilisation rationnelle, une civilisation de la technologie, qu'on est capable, voilà, d'aller très 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 loin dans le progrès, et en même temps, on se rend compte qu'on est une espèce qui est capable de détruire ce qui fait son existence même. Donc, cette rationalité, finalement, elle est une aporie, enfin, elle nous mène à rien, puisque on a fini par détruire ce qui fait notre vie même. Donc, je crois qu'effectivement, on est dans un moment de très grande déception, et on n'arrive plus à imaginer, à se projeter, qu'est-ce que pourrait être demain, et en plus à imaginer de manière collective.
Et vous pensez que la littérature pourrait aider, toute forme d'art aussi, en tout cas reposant sur l'imagination, à cette projection peut-être salvatrice?
Bien sûr qu'elle pourrait aider, même si, pour être tout à fait honnête, je trouve qu'on a une lecture aujourd'hui du roman, de la littérature en général, qui est malheureusement trop sociologique, trop terre à terre. On veut toujours ramener les livres à des angles, à des choses, voilà, qui sont, à mon avis, pas tellement intéressantes. Il faudrait redonner à la littérature son véritable rôle. Il faudrait remettre l'imagination au centre, célébrer chez l'écrivain, non pas son commentaire du réel, qui est en fait pas très intéressant, mais sa capacité à imaginer, justement, tout ce qui n'est pas réel dans le livre, c'est ce qui est le plus intéressant.
À chaque fois que je vous entends, j'ai envie de crier, mais quelle intelligence! Et cette femme a l'air d'avoir 20 ans, mais elle a en fait une centaine.
Quel séducteur, Alberto Mangel!
Eh bien, non, je suis séduite, ça marche très bien.
Toute crise de société est une crise de l'imagination. Pourquoi vous avez lancé cette belle phrase?
Je pense que l'imagination elle-même est en danger aujourd'hui. Et elle est menacée, comme disait Leïla, par les technologies, la volonté que de croire que tout a une explication sociologique, cette horrible habitude de dire dans les films et dans les romans que l'histoire est vraie, comme si les histoires imaginaires ne l'étaient pas. Et aussi dans le langage politique, avant jusqu'au milieu du XXe siècle, le discours littéraire avait une valeur politique. Aujourd'hui, le tweet a remplacé le discours rationnel bien ficelé et a plus de valeur politique que celui-là, parce que il est ressenti comme quelque chose qui vous sort des tripes. Et donc, le tweet vous sort des tripes, donc le discours rationnel, la littérature est froide. Il faut pas y croire.
Oui, l'un est authentique, l'autre
serait... Et puis c'est la pulsion contre la rétention. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. La littérature, elle est rétention. Le tweet, c'est la pulsion. C'est-à-dire, je pense quelque chose immédiatement, je le tweet. Un écrivain réfléchit beaucoup avant d'écrire.
On va mettre en question cette rétention dont vous parlez, parce que moi, j'ai plutôt l'impression, Laila Slimani, quand je lis le Pays des Autres, en plus, premier volume, il y en a deux à venir, que c'est pas vraiment, justement, les rétentions, et que par rapport aux deux romans précédents, qui semblaient beaucoup plus à l'os, peut-être, que là, justement, vous avez été en expansion, dans les sensations, dans les événements politiques, dans l'épique, dans le sentiment, dans l'enfance. Enfin, vous avez joué sur toutes les partitions possibles. Alors, on va en parler. D'abord, on écoute votre choix musical. Vous avez choisi, belle chanson d'écrivain, Barbara, La Solitude.
France Culture, le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Je l'ai trouvée devant ma porte un soir que je rentrais chez moi. Partout elle me fait escorte, elle est revenue, la voilà. La renifleuse des amours mortes, elle m'a suivie pas à pas. La garce, que le diable l'emporte, elle est revenue, elle est là. Avec sa gueule de carême, avec ses larges yeux cernés, elle nous fait le cœur à la traîne, elle nous fait le cœur à pleurer. Elle nous fait des matins blêmes et de longues nuits désolées, la garce. Elle nous ferait même l'hiver au plein cœur de l'été. Dans ta triste robe de moire, avec tes cheveux mal peignés, t'as la mine du désespoir, tu n'es pas belle à regarder. Allez, va t'emporter ailleurs ta triste gueule de l'ennui. Je n'ai pas le goût du malheur, va t'en voir ailleurs si j'y suis. Je veux encore rouler des hanches, je veux me saouler de printemps. Je veux m'en payer des nuits blanches, à cœur qui bat, à cœur battant. Avant que sonne le blême et jusqu'à mon souffle dernier, je veux encore dire je t'aime et vouloir mourir d'aimer.
Barbara. Barbara, La Solitude. C'est le choix de Laila Slimani qui publie chez Gallimard Le Pays des Autres, première partie, La Guerre, La Guerre, La Guerre. On est avec elle pendant ce temps des écrivains et avec Alberto Manguel qui publie Monstres Fabuleux, Dracula, Alice, Superman et autres amis littéraires. C'est chez Actes Sud. Pourquoi Barbara, La Solitude?
Parce que souvent, on me demande si la solitude me pèse du fait que j'écris. Je dis souvent que je crois que je suis devenue écrivain pour être seule et pas l'inverse. J'aime énormément la solitude. Et puis la solitude, quand on écrit, elle est merveilleuse parce qu'elle est habitée par justement tous ces amis imaginaires, tous ces monstres qui nous connaissent parfaitement, que l'on connaît parfaitement. J'ai des émotions immense en lisant, donc voilà, cette solitude là j'en ai la nostalgie déjà, parce que je sais que pendant les semaines qui viennent je ne vais pas être très seule et très concentrée sur mes livres et mon travail.
Alors, Ce Pays des Autres chez Gallimard, donc je le rappelle, c'est pas le titre simplement de ce nouveau roman, mais c'est le titre d'une trilogie, donc il y en aura deux autres. Le premier tome est sous-titré La Guerre, La Guerre, La Guerre, et il nous plonge dans 10 ans d'histoire marocaine, de 45, 46 à 56 à peu près, 10 ans que nous allons traverser en suivant deux personnages principalement, mais il y en a beaucoup d'autres. C'est un couple formé par Amine, le Marocain, et Mathilde, la Française, l'Alsacienne. Ils se sont rencontrés en France pendant la guerre, ils se sont mariés, ils ont choisi de vivre au Maroc, dans la propriété qu'avait acheté le père d'Amine, à quelques dizaines de kilomètres de Meknès. Le père d'Amine y croyait, à cette terre, à cette demeure, sauf que c'est une terre rocailleuse, très très dure, c'est peu le côté Jean de Florette de votre livre. On cherche toujours de l'eau, hein, quelque part. Il faut s'échiner, en fait, pour voir produire quelque chose sur cette terre. Mais les courageux, Amine, et les courageuses aussi, Mathilde, la Française, on les suit, eux, leurs voisins. Un très beau portrait, très cruel aussi, du voisin colon qui a les tracteurs qu'il faut avoir pour l'agriculture, leurs enfants, Aïcha et Selim, Aïcha aux beaux cheveux crépus et qui voudrait tout couper tellement elle en a honte, leurs enfants, je disais, mais aussi Omar, le frère d'Amine, qui a choisi le camp des insurgés nationalistes, qui bat sa femme, la guerre gronde au fond dans ce Maroc. Comment une famille tient dans tout cela? Eh bien, c'est ce que vous racontez dans ce pays des autres. Je le disais, qui grouille de personnages, de points de vue, de senteurs, de cris, d'amour aussi. Le pays des autres, parce que c'est comme si on n'était jamais chez soi, même quand on est dans son pays, quand il s'agit du Maroc.
Oui, en tout cas à cette époque, et pour ces deux personnages, c'est vrai. Amine est un soldat de l'armée coloniale qui va aller en France, donc dans le pays des autres, pour combattre pour les autres, au nom des valeurs des autres, qui va revenir ensuite chez lui, auréolé d'une gloire très éphémère, puisque quand il arrive, à la fois il a été officier, soldat, il a libéré la France, mais il redevient Mohammed, il redevient celui qu'on tutoie, qu'on humilie. Donc il vit de nouveau chez lui dans le pays des autres. Et puis bien sûr, Mathilde est un personnage qui n'est jamais chez elle, puisqu'elle est à la fois une blanche, une française, et en même temps étant mariée à un bico, un morico, elle est dans le pays des autres.
Avec en plus toutes les connotations sexuelle, implicite, c'est-à-dire que si elle est avec ce Marocain, c'est parce qu'elle est un peu sauvage, qu'elle cherche l'ensauvagement, enfin, oui, tous les clichés.
Oui, mais je crois que la question de la sexualité dans la colonisation, elle est très très importante et on la mesure sans doute pas assez. Quand on regarde les vieilles affiches sur la colonisation, comment sont figurés les continents? Toujours par des femmes seins nus, des femmes offertes. Quand le blanc arrive sur ces continents, non seulement il pénètre les territoires, mais il pénètre les femmes. Sa première conquête, c'est les femmes. Et il faut aussi mesurer le fait que dans nos pays, une des raisons du conservatisme aujourd'hui, de l'islamisme et tout, c'est aussi une espèce de revanche de l'homme colonisé sur finalement cette humiliation qu'il a vécue. Et qui est encore une fois celle qui va subir cette revanche? Ce sont les femmes. Donc ce rapport entre la sexualité et la colonisation est à mon avis essentiel pour comprendre à la fois les sociétés actuelles et puis ce qui s'est passé à cette époque-là.
Sur ce sentiment justement de ne pas être vraiment chez soi, d'être toujours dans le pays des autres. C'est peut-être quand je regardais vos deux précédents romans et celui-là, peut-être la seule chose un peu évidente qui relie justement vos trois romans, c'est-à-dire le sentiment d'étrangeté à soi-même, parce qu'il y avait ça chez le personnage de Nounou de Chanson douce, il y avait ça aussi dans le personnage de l'ogre dans le jardin et cette nymphomanie, ce motif d'être aussi étranger à son désir qui vous dépasse totalement. Vous l'expliquez comment vous voyez, je fais de l'explicatif. Mais c'est intéressant aussi de savoir ce qu'un écrivain aussi pense de ce qu'il a fait, même s'il est vrai que les livres, comme on le dit, s'écrivent tout seuls, comme le veut la mythologie.
Oui, bien sûr.
Que ce thème soit si présent, ce thème de l'étrangeté à soi-même.
Oui, ça c'est quelque chose qui est présent dans tous mes livres, peut-être parce que c'est une chose que j'ai toujours ressentie, moi aussi profondément, forme d'étrangeté à soi-même, d'être toujours à côté de soi, mais c'est ce qui fait aussi qu'on a envie d'écrire, c'est ce dédoublement. Moi je vis et puis j'ai une sorte de récit intérieur, et au moment où on découvre qu'en fait non seulement on vit, mais on raconte sa vie à l'intérieur de sa tête, pour un enfant par exemple, c'est un moment extraordinaire, d'un coup on a un récit qui se met à vivre en nous. Alors ce récit peut être plus ou moins proche de ce qu'on est, parfois on s'invente des histoires, on s'invente une personnalité qu'on n'est pas, et puis parfois ce récit on a envie de le partager avec les autres. Mais je dirais que ce qui peut-être relie les trois personnages de mes livres, c'est plutôt cette idée de la déception. On parlait tout à l'heure du fait que le réel arrive toujours comme ça, plus terre à terre et plus trivial qu'on l'imaginait. Dans le premier roman, c'est la déception liée à la sexualité, dans Le Jardin de l'Ogre. Dans Chanson douce, je dirais que c'est la déception liée à la maternité. Et dans Le Pays des autres, la déception liée à l'exil, partir à l'aventure et finalement se rendre compte que l'ailleurs n'est pas si différent de là où on était et qu'on subit les mêmes aliénations et les mêmes douleurs.
Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ce trop plein de réel qui caractérise, de réel entre guillemets d'ailleurs, parce que qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas, mais en tout cas ce trop plein d'explications, ce trop plein d'immédiateté qui caractérise notre société, est-ce que c'est pour fuir là-bas, fuir comme disait l'autre, que vous êtes justement lancé maintenant, dans cette histoire qui vous plonge dans les décennies passées de ce Maroc que vous avez quitté, donc de changer de territoire romanesque, de changer d'époque pour retrouver justement des armes imaginaires ou des armes sensorielles.
Sans doute, ça mérite un peu de devoir l'avouer, mais c'est vrai que j'étais lassée du présent. J'étais lassée de ma propre époque, de ma propre société. C'est très difficile aussi pour un écrivain d'écrire sur une époque où tant de choses se disent, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En réalité, on vit dans un monde où il y a énormément de mots et en même temps, pas tellement de signifiance, c'est-à-dire pas tellement de signification. Donc, il y a quelque chose d'un peu étouffant. Et puis aussi, je suis arrivée à un moment de ma vie où je me suis rendu compte que j'avais vécu aussi longtemps en France qu'au Maroc.
Donc c'était le moment.
C'était une espèce de mi-temps comme ça. Et avec la distance, peut-être que le Maroc a pu devenir un territoire romanesque. Il faut parfois partir pour pouvoir mieux parler de son pays ou de ce qu'on est.
Parce que les histoires étaient déjà là, si votre
grand-mère vous racontait. Les histoires étaient déjà là, mais j'avais pas assez de distance pour le raconter.
Je voudrais qu'on vous entende lire, Laïla Slimani, un extrait de Le Pays des Autres. Première partie, la guerre, la guerre, la guerre. Vous avez le sous-titre des autres parties, d'ailleurs ?
Non, pas encore. Et puis si je l'avais, je
vous dirais pas. L'amour, l'amour, l'amour.
C'est ça, ça me ressemble tellement, l'amour, voilà. l'amour.
Donc j'ai choisi une scène épique.
Ils atteignirent la voiture et se jetèrent à l'intérieur. Aïcha se mit à pleurer. Elle réclama les bras de sa mère, elle demanda si son frère allait mourir, et Amine et Mathilde, ensemble, lui ordonnèrent de se taire. La foule des émeutiers les avait rattrapés, et Amine ne put pas faire marche arrière. Des visages se collèrent contre la vitre. Le menton d'un jeune homme laissa sur la fenêtre une longue trace grasse. Des yeux inconnus examinaient cette étrange famille, cet enfant, dont on avait du mal à dire dans quel camp elle se trouvait. Un jeune homme se mit à hurler, le bras tendu vers le ciel, et la foule fut galvanisée. Il n'avait pas plus de 15 ans et il s'était laissé pousser une petite barbe d'adolescent. Sa voix grave et haineuse tranchait avec la douceur de son regard. Aïcha le fixa et elle sut que ce visage s'imprimerait pour toujours dans sa mémoire. Ce garçon lui faisait peur et elle le trouvait beau, avec ce pantalon de flanelle, sa petite veste qui rappelait celle des aviateurs américains. « Vive le roi !» hurla le jeune homme et le cœur répéta « Vive Mohamed Ben Youssef !» si fort qu'il sembla à Aïcha que c'était les voix qui faisaient tanguer la voiture. Des garçons s'étaient mis à taper sur le toit du véhicule avec de grands bâtons et ils rythmaient leurs chants comme un orchestre et leurs clameurs montaient presque mélodieuses. Ils se mirent à tout briser, les vitres des voitures, les ampoules des réverbères, les pavés étaient jonchés d'éclats de verre et les manifestants marchaient dessus avec leurs mauvaises chaussures sans remarquer le sang qui coulait sur leurs pieds. « Allongez-vous !» cria Amine et Aïcha posa sa joue contre le sol de la voiture.
Merci Laïla Slimani. Alors c'est épique, hein. La guerre, la guerre, la guerre, c'est une parole de Scarlett O'Hara dans Autant on emporte le vent. C'est une référence, c'est une.
Bien sûr, bah voilà encore une de mes amies, Scarlett O'Hara. Voilà, une de mes amies de mon
Panthéon. Vous l'aimez, Scarlett O'Hara?
Pas tellement. Mais on ne peut pas avoir les mêmes amies.
Non,
on a. Mais je voudrais ajouter une chose à ce que Leïla a dit. Il y a des coïncidences littéraires absolument épatantes. Mon premier roman s'appelle Dernière nouvelle d'une terre abandonnée. Ça se passe pendant la guerre d'Algérie. Et il y a une femme algérienne française qui est avec un soldat de l'armée française. Je l'écris parce que j'ai appris que l'armée française était chargée d'apprendre aux tortionnaires argentins la torture. Et donc le roman est à peu près la même idée de ce couple qui se forme sans se connaître dans une terre qui est étrangère et qui n'est pas étrangère. Et je suis content d'avoir écrit ce roman il y a tant d'années parce que sinon on m'aurait accusé de plagiat.
Enfin là, vous soulevez quand même quelque chose et prononcez le mot Algérie. Moi, je me suis demandé, c'est vrai que dans la littérature contemporaine, l'Algérie est très très présente. Le
Disons
Maroc.
Que dans la littérature coloniale, si on peut parler d'une forme de littérature coloniale, l'Algérie a pris pratiquement toute la place.
Mais même chez les écrivains algériens.
Absolument, sont, bien sûr, bien sûr.
Colonial ou...
Et c'est vrai que pour les Marocains, mais de manière générale, le monde occidental a une vision du Maghreb qui est très globale, c'est-à-dire Maroc, Algérie, Tunisie, bon, c'est un peu la même chose.
Enfin, l'Algérie ressort quand l'Algérie même à cause ressort, de ces grands romans.
L'Algérie ressort, mais finalement, nous, notre spécificité, la spécificité de l'histoire marocaine, du coup, est presque effacée, en tout cas, Afadi...
Il y avait Drish Raibi, Choukri, Mohamed Choukri, mais il fallait réparer aussi un pan...
Moi, je vois pas les choses, je vois pas les choses comme ça, je ne me donne pas ce genre de mission, mais en tout cas, j'étais convaincue que le Maroc était un grand pays romanesque, que le Maroc, c'est un pays qui, par son histoire, par ses traditions, par ses personnages historiques, que ce soit les rois, que ce soit les chefs de tribus, etc., c'est un territoire extrêmement romanesque. Et je me disais toujours, c'est vraiment dommage qu'on n'exploite pas toute cette matière.
Tant mieux, voilà,
exactement.
Est-ce que vous avez eu la sensation de changer de style? Pour ce livre par rapport aux deux autres.
Un petit peu, il faut aussi que le style est aussi en rapport avec le sujet que vous racontez. Quand vous écrivez un livre sur la mort de deux enfants assassinés par leur nounou, vous êtes obligé d'être dans un style un peu plus retenu. Vous ne pouvez pas vous permettre trop de lyrisme. Mais là, je me suis sentie très sereine en fait dans l'écriture. Je me suis sentie à l'aise. J'ai eu envie de me faire un petit peu plus confiance et puis d'aller vers plus de poésie. Surtout, je voulais vraiment une écriture qui soit une écriture de la sensation. J'ai beaucoup relu des écrivains du sud des États-Unis, j'ai beaucoup relu Faulkner, Carson McCullers, voilà ce genre d'écrivains qui travaillent beaucoup sur le territoire, sur la terre, l'odeur, la moiteur, toutes ces sensations,
la violence
évidemment entre les races, entre les sexes, donc c'était vraiment ça qui m'intéressait dans mon écriture.
Et vous savez où vous allez? Est-ce que tout est prévu?
Non, je ne sais pas où je vais, Christophe Onodibio, pas du tout.
Non, tout n'est pas prévu, il n'y a pas une sorte de plan dans votre bureau
Je connais le destin de mes personnages, mais je ne sais pas encore comment cela va s'incarner sur le plan littéraire, c'est un mystère encore.
Qu'est-ce qui était le plus difficile à écrire pour ce livre, justement? Il y a une multiplicité de points de vue, une multiplicité de personnages, on est moins dans le huis clos des précédents romans, le territoire est vaste. Qu'est-ce qui était le plus compliqué et peut-être aussi d'ailleurs le plus passionnant?
Ce qui a été peut-être difficile, c'était que je ne voulais pas écrire un roman historique. Je ne voulais pas donner à la grande histoire une place trop grande. Je voulais écrire un roman. Moi, ce que j'aime, c'est la littérature. Je voulais que mes personnages soient vraiment au cœur de tout et que chaque événement historique soit raconté ou évoqué de manière incarnée, à travers quelqu'un, à travers un événement de sa vie quotidienne. Parce que je crois que quand on vit dans le présent, on ne vit pas l'histoire avec un grand H. On vit la vie, on vit le quotidien. Nous, ce qu'on lit dans les journaux, ce qu'on écoute à la radio, pour nous, dans notre temps présent, voilà, ce ne sont que des événements. Et je voulais que mes personnages vivent l'histoire seulement comme des événements de leur présent et de leur quotidien, qu'ils ne le comprennent pas, qu'ils soient aussi aveugles et aussi désemparés face à ce qui se passe autour d'eux que n'importe qui l'est dans le présent. Je n'aime pas les romans, en fait, où parfois on a l'impression que l'auteur en sait plus que ses personnages. Moi, je voulais me mettre à la hauteur de mes personnages, vivre avec eux dans années 50.
Pas Jacques le fataliste, alors, voilà.
Vous avez bien appris votre Tolstoï.
Voilà, exactement. Tout à fait. Voilà. Vous savez que c'est... Plus Tolstoï que
Diderot.
Tout à fait.
Oui, alors, c'est vrai que dans ces choses, justement, concrètes, il y a... Alors, je ne sais pas, d'ailleurs, si elle existe, mais j'ai envie qu'elle existe, ou qu'il existe, c'est le citrange. C'est un oranger sur lequel Amine a greffé une branche de citronnier qui semble un peu, ce qui est la très très belle métaphore aussi de ce livre, de ce couple aussi hybride. On reste dans les agrumes, voilà. Ça existe le citrange?
Ça pourrait exister. Ouais. En
c'est
tout cas,
une invention.
Je me suis souvenu que mon grand-père faisait ça pour nous amuser. Ouais. Quand on était petite, il faisait donc des boutures et des greffes d'un arbre sur un autre. Ce qui était très troublant, c'était que parfois ça marchait et puis parfois ça prenait pas. Et puis ce qui était troublant aussi, c'est qu'il disait souvent, ah tu vois, ça y est, il avait fait une fois un truc avec, je crois, un amandier et un cognacier. Et puis l'une des espèces avait colonisé l'autre. Et il avait dit, regarde, elle l'a colonisé et l'autre a disparu. Et c'est ça qui m'a fait, j'ai repensé à ça, et je me suis dit, voilà, évidemment, il faudrait utiliser cette métaphore de l'arbre et de la botanique, parce que je trouve que la botanique, ça dit énormément de choses en réalité sur l'être humain. Il faut s'intéresser aux fleurs parfois et aux arbres pour raconter des choses sur les hommes.
Et on rejoint le bouquet de fleurs d'Alberto Manguel. Voilà, il y a des citranges aussi chez vous, puisqu'on passe d'Alice in Wonderland à Dracula, par exemple. Donc, on est dans une sorte de Bram Stoker féconde Lewis Carroll et réciproquement.
Dracula aurait pu s'intéresser à la petite Alice.
Oui, mais d'ailleurs, enfin, il s'y intéresse dans votre livre, puisque finalement, on passe d'un chapitre à l'autre. C'est vrai que on n'est pas loin d'imaginer le coup d'Alice. Oui, mais je dis ça parce que pour
qui
Alberto
s'allonge
Manguel,
d'ailleurs.
Qui s'allonge, oui. Donc en fait, on peut le mordre, à différents endroits.
Il aurait beaucoup de nourriture.
Le territoire s'agrandit, exactement, puisque vous réduisez, vous synthétisez. J'aime beaucoup cette phrase Dracula, donc le grand roman de Bram Stoker, a une histoire de coups. Alors après la famille marocaine de Leïla Slimani, c'est vrai qu'il faut faire connaissance avec cette famille d'Alberto Manguel, une cohorte d'amis donc nommés Robinson Crusoe, Quasimodo, Alice, Dracula, mais aussi Satan ou Job. Et c'est intéressant parce que Leïla Slimani, vous parliez tout à l'heure aussi des textes, vous disiez une mission religieuse de la littérature, on a l'impression que vous confondez les deux au fond, les êtres de fiction, de romans, et les êtres issus des grands textes religieux doivent être, pour vous, lus de la même façon. Ce sont des personnages, ce sont aussi des textes de fiction, des textes religieux,
c'est que
pour vous.
Aucune religion ne peut convaincre sans raconter des histoires. Et ces histoires, Borges les appelait une grande branche de la littérature fantastique.
Encore la, voilà, la botanique.
Et donc, ces personnages m'intéressent profondément. Jonas ou Job, c'est des grands personnages littéraires. Le patient Job se retrouve dans le Père Goriot, dans le Prospero de Shakespeare. Donc, oui, ils ont une famille nombreuse au sein de la fiction.
D'ailleurs, c'est drôle parce que vous disiez tout à l'heure, Leïla Slimani, que écrire, c'était aussi accéder à l'ambiguïté nécessaire. Et quand vous parlez de Jonas, Alberto Manguel, vous mettez en évidence son ambiguïté. Au fond, pourquoi est-ce qu'il veut pas aller à Ninive? Enfin, il nous dit parce qu'il serait convaincu par moi et Dieu les punirait pas. Ça fait qu'il est trop bon, trop convaincant, etc.
Mais c'est ambiguïté tout ça terrible. Est dans le livre, oui, de Jonas. Et, oui, et moi, j'étais étonné en le lisant combien ça ressemblait à une histoire de Mark Twain. Parce que Dieu dit, tu vas convaincre un peuple aussi bête que les vaches. Mais c'est littéralement.
On va écouter. Écoutez votre choix musical, Alberto Manguel. Vous avez choisi un requiem allemand, donc je donne le titre, hein. C'est un morceau de Brahms, Denn alles Fleisch es ist wie Gras, dirigé par Herbert von Karajan, l'orchestre philharmonique de Vienne et le chœur de Vienne. On écoute.
France Culture, le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Denn alles Fleisch es ist wie Gras, c'est Brahms sous la direction d'Herbert von Karajan. On entend l'orchestre philharmonique de Vienne et les chœurs de Vienne. C'est le choix d'Alberto Manguel qui publie Monstres fabuleux, Dracula, Alice, Superman et autres amis littéraires, c'est chez Actes Sud. Il est avec nous dans ce temps des écrivains, avec aussi Leïla Slimani, Le pays des autres, première partie, la guerre. Le premier volet de sa grande trilogie chez Gallimard. C'est très beau ce que vous nous faites écouter, Alberto Manguel.
J'aime ça depuis mon adolescence. Mais dans mon adolescence, ce cœur surtout, ce qui nous dit que toute chair est comme l'herbe et toute beauté de la chair comme les fleurs de l'herbe, je entendais seulement la première partie. Adolescent,
sur la chair que l'herbe, c'est
ça. À la chair. Voilà. Mais maintenant, j'ai plus de 70 ans, donc
oh.
Je suis au dernier chapitre. Et c'est la deuxième partie qui m'intéresse, et c'est pas parce que nous sommes à l'époque du coronavirus. Nous devons être conscients que tout arrive à la fin, et les personnages littéraires nous apprennent cela. Toute histoire doit finir. Une histoire qui ne finit pas n'a aucun sens ni aucun intérêt. Et c'est cette histoire qui tend vers la fin que nous reconnaissons dans le personnage, cet avenir qui promet une conclusion.
Je suis pas d'accord avec vous du tout, Alberto Manguel,
bon,
en ayant lu votre livre.
Vous êtes jeune.
En ayant lu votre livre, parce que ce que montre votre livre Monstre fabuleux, j'en dis un mot, c'est que les histoires ne finissent jamais. Que Shakespeare a beau finir son Hamlet, que autant en emporte le vent a beau être fini, ça recommence toujours parce que les livres sont lus et donc recommence sans arrêt.
Je ne dis pas que je ne crois pas à la résurrection.
Ah, voilà. Donc bon,
et,
voilà.
Et c'est le lecteur qui donne.
Vous jouez sur
texte.
Les mots.
Mais bien sûr, c'est les mots qui comptent.
Voilà.
C'est le lecteur qui donne au texte son immortalité. Le texte s'achève, on arrive à la dernière page, et à partir de là, le lecteur s'en prend du texte et le fait renaître.
Voilà, et c'est une renaissance perpétuelle que vous nous offrez dans Monstres fabuleux, Dracula, Alice, Superman et autres amis littéraires. C'est quoi ? C'est une suite de petits chapitres. Il y a une introduction dont on va parler, formidable, sur la fiction aussi, sur ce que nous apporte la littérature, les livres, et ensuite une succession de chapitres consacrés, donc il y a un petit dessin de vous, d'ailleurs.
Un petit gribouillage,
c'est beau, le mot gribouillage, à Monsieur Bovary, par exemple, celui qui offre à Emma une excuse pour son infidélité, écrivez-vous. Le petit chaperon rouge, emblème de la liberté individuelle, je vous cite, séductrice, séduite, innocente, avertie, qui ne cesse de parcourir la forêt, libre et sans crainte, des loups côteleux. Dracula, une histoire de coups, hein, ça y est, dites-vous, dissertant sur cette zone du corps humain, pupitre pour les lettres de Vénus, là vous citez Maurice Sève, Queequeg, le harponneur de Moby Dick, dont les tatouages, je vous cite encore, sont le texte d'un scribe magicien, paradoxalement, puisque Queequeg ne sait pas lire, ou Nemo, terroriste avant la lettre, écrivez-vous avec un avant la lettre en italique, des personnages dont vous nous transmettez le virus, hein, c'est vous qui en avez parlé après tout. Montaigne disait, quand il évoquait son ami La Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi, comment vous les avez choisis ces personnages et comment vous avez fait pour écarter les autres? Parce que par exemple, vous aimez Hamlet, mais il y est pas. On n'a pas Julien Sorel.
J'aime pas tellement Hamlet.
On n'a pas Lolita dont vous
Lolita,
parlez.
Lolita, oui.
Elle
n'y
est pas.
Non. Et Lolita n'y est pas. Le roi Lear n'y est pas.
Il n'y a pas Raskolnikov dont Leïla Slimani nous parlait, qu'on adore.
Raskolnikov, Pinocchio, ils n'y sont pas.
Mais pourquoi
livre,
ils vont venir que, dans les prochains ou...
Parce que l'éditeur ne me permet pas d'écrire un livre infini.
Ouais. Non, mais je veux dire, comment vous avez justement... c'est quoi c'est le fait de reparcourir justement ces amitiés.
Vous avez sûrement beaucoup d'amis. Mmh. Vous préparez un dîner, vous invitez pas une centaine, vous invitez 10, 20 personnes. Maximum.
Ouais.
Et donc, non, c'est un choix.
C'est une rétention.
C'est une rétention. Il faut écrire à partir de la rétention.
Ce sera le mot de cette liste.
Leïla a raison. Non, c'est un choix un peu au hasard. Le bibliothécaire que j'ai en tête croit vraiment au hasard et donc choisit des textes au pif. Mais il y a tellement de textes que j'aime que je voulais montrer un peu de la panoplie. Il y a des exemples de la littérature chinoise et de la littérature coréenne, turque, ainsi de suite.
Ouais, et donc ces personnages dont on a dit un mot, Jonas ou Job aussi, voilà,
oui.
de ces grands textes aussi.
Lilith aussi.
Et Lilith, bah,
j'aime beaucoup Lilith.
Et Phébé aussi.
Phébé, qui est un personnage si essentiel l'attrape-cœur.
Vous expliquez dans la préface qu'Husserl, que vous trouviez enthousiasmant quand vous étiez jeune, avait théorisé le lien qui existait entre l'esprit humain et les créatures imaginaires sous le nom de relation dyadidique normale.
Oui, mais c'est le vocabulaire de philosophe.
Voilà. Et vous ajoutez, vous en avez établi, vous, des centaines de relations dyadidiques normales avec des tas de créatures imaginaires. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'une relation dyadidique normale?
Non, je ne suis pas Husserl.
Parce que ça n'a pas l'air très normal, les relations que vous avez. Enfin, on les comprend.
Oui.
Je ne sais pas si c'est la norme d'aimer autant les créatures de papier, même plus d'ailleurs, vous vous dites carrément plus, que celles de chair et de sang, pour en revenir à Brahms.
Oui, je pense que vraiment les personnages, les personnes qui comptent pour moi sont celles que j'ai découvertes dans les livres. C'est pas dire que j'ai pas des amis ou des parents en chair et en os qui sont très importants pour moi, mais ces amis d'encre et papier m'aident à les comprendre. Il y a des reflets, il y a des passages, des échos. Pour moi, c'est très important ce lien. Vous dites que ce n'est pas courant que on soit
quand
si
on aime
enthousiaste.
La lecture, mais disons voilà.
Oui, je crois que ce qui est moins courant, c'est qu'on l'avoue. Les gens n'aiment pas d'habitude avouer que l'imagination est importante pour eux, surtout à notre époque, on concrétise tout, il faut donner des chiffres, il faut donner des réponses, des raisons, tout doit avoir une explication. Et ce champ flou de l'imagination, de l'ambiguïté, qui ne nous donne pas des raisons, mais qui pourtant a un énorme poids, n'est pas facile à avouer.
Je voudrais qu'on vous entende lire un extrait de ces monstres fabuleux. J'ai choisi un passage d'Alice,
hein, ah,
forcément.
Merci.
Voilà, Alice qui nous guide, en tout cas qui vous guide.
Elle m'a guidé depuis toujours. Ainsi qu'Alice, nous risquons de nous noyer, et tout le monde avec nous, dans nos larmes. Nous pensons volontiers, comme le dodo, que quelle que soit notre incompétence et la direction dans laquelle nous courons, nous devrions tous gagner et devrions tous avoir droit à un prix. Ainsi que le lapin blanc, nous donnons des ordres à gauche et à droite, comme si les autres devraient se sentir obligés, et on aurait, de nous servir. À l'instar du ver à soie, nous mettons en question l'identité d'autrui, mais nous n'avons guère d'idée de la nôtre, même à la limite de la perte de cette identité. Nous croyons, comme la duchesse, au châtiment du comportement désagréable des jeunes. Mais nous ne nous intéressons guère aux raisons de ces comportements. De même que le chapelier fou, nous nous croyons seuls à avoir le droit de manger et de boire à une table dressée pour des nombreux autres convives, et avons le cynisme d'offrir aux assoiffés et affamés du vin, alors qu'il n'y a pas de vin et de la confiture tous les jours, sauf aujourd'hui. Sous le règne des despotes tels que la reine de cœur, nous sommes forcés de jouer à des jeux insensés avec des instruments inadéquats, des balles qui filent en roulant comme des hérissons et des cannes qui se tordent et se plient comme des flamants. Et quand nous nous montrons incapables de suivre les instructions, nous sommes menacés d'avoir la tête coupée.
Merci Alberto Mangal. C'est pas une belle définition, Leïla Slimani, de la littérature, le fait de jouer à ces jeux insensés avec des instruments inadaptés, avec des cannes, enfin, inadaptés ou génialement qui ouvrent tous les possibles, des cannes flamant roses et des balles hérissons.
Mais c'est pour ça que c'est si extraordinaire et c'est pour ça que l'imagination est un espace extraordinaire, c'est un lieu d'expansion de la vie. Ça nous prouve que la vie n'est jamais ce qu'elle est, elle n'est jamais aussi petite, aussi triviale qu'elle y paraît. L'imagination nous donne l'impression que tout peut être plus grand, plus intense. En réalité, j'ai le sentiment que dans notre intimité, même quand on est enfant, on a l'intuition de cela. On a l'intuition de l'intensité, on a l'intuition de la passion. Et puis, la vie constamment nous déçoit, n'est pas à la hauteur, et puis on lit. On lit un livre, et là, c'est aussi grand, c'est aussi beau, c'est aussi fort qu'on l'avait imaginé. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et c'est marrant parce que je me disais, en fait, la littérature, justement, c'est le pays des autres, c'est le pays de ces autres étranges, plus forts que les autres de la vraie vie. Les autres, dans la littérature, ils existent vraiment, à la fois dans leur étrangeté, mais en même temps dans leur aspect d'alter ego. Combien de fois on lit et on se dit « c'est exactement ça que j'ai ressenti ». On peut lire un livre sur un Coréen qui a vécu au 12e siècle et on se dit « mais j'ai eu peur comme lui, et j'ai eu mal comme lui ». Ça, c'est extraordinaire de se rendre compte de ça.
Il parce que c'était lui, parce que c'était moi.
Voilà. Il va même plus loin, Alberto Mangan, parce qu'il y a même des conseils aux écrivains dans les livres déjà écrit. Par exemple, dans certains cas, je vous cite, dans certains cas, le conseil est excellent, mais je me trouve incapable de le suivre. C'est Alberto Mangel qui parle. Comme lorsque dans Alice au Pays des Merveilles, le roi dit au lapin blanc, commencez par le commencement et continuez jusqu'à ce que vous arriviez à la fin. Ensuite, arrêtez-vous. Ou quand Jo, dans Les quatre filles du docteur March, s'enferme dans sa chambre, enfile son costume de scribouilleuse et tombe dans un vortex, selon son expression, écrivant de tout son cœur et de toute son âme, car tant que cela n'était pas fini, elle ne pouvait trouver aucune paix. Il est rare que je puisse convoquer une énergie créative aussi persistante, mais ça vous aide quand même.
Mais bien sûr, voilà. Bien sûr, ça m'aide. J'ai un conseil que, oui, celui-là m'aide énormément, je le partagerai avec vous, Leïla. Dans un roman policier de Dorothy Sayers, il y a l'héroïne Harriet Vane, qui est une docteure d'Oxford en lettres, qui est amoureuse de Peter Wimsey, Lord Peter Wimsey, qui lui a sauvé la vie. Mais comment répondre à quelqu'un qui vous a sauvé la vie? Le couple n'est pas possible. Mais elle doit lui écrire. Et elle essaye, il y a beaucoup de brouillons. Et finalement, elle se dit, comment est-ce que moi, reçu d'Oxford, ne peux pas mettre sur la page 300 mots sur un thème donné? Et là, elle écrit. Donc ça m'aide énormément quand je me dis que j'ai pas de l'inspiration.
Avant de nous quitter, je voudrais vous interroger. Vous, Leïla Slimani, écrivain, vous, Alberto Mangel, écrivain, et qui, dans tous vos livres, avez fait l'éloge de la lecture, de sa puissance, de sa richesse pour construire les êtres humains, pour construire une variété, une capacité à inventer des mondes, une diversité. Vous qui avez écrit, répété que dans une société de la rapidité et de la facilité, l'acte qui va à l'encontre de cette facilité, avec lenteur, avec profondeur, avec réflexion, c'est la lecture, qui devient même un acte subversif, puisqu'on a parlé des personnages dans cette émission. Est-ce que vous ne constatez pas qu'elle devient moins importante qu'avant, la lecture, et qu'au fond, ce qui intéresse désormais les gens, ce ne sont pas les personnages des grands textes, mais leur propre personnage cultivé, construit, notamment à travers les réseaux sociaux?
Oui, c'est vrai, mais je ne veux pas non plus céder complètement au pessimisme. Je veux penser aussi que, d'abord, le monde occidental n'est pas le seul monde sur lequel on doit se pencher. Il y a aussi tout un autre monde.
Les réseaux sociaux, c'est...
Non, mais voilà, tout un autre monde où, par exemple, l'accès à la lecture est quelque chose qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Quand vous regardez, par exemple, un pays comme le Maroc, moi, quand j'étais petite, il y avait encore 75% des femmes qui étaient analphabètes dans un pays comme le Maroc. Aujourd'hui, 100% des petites filles pratiquement vont à l'école au Maroc et vont apprendre à lire et à écrire. Quand je fais des conférences au Maroc, en Tunisie, vous pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui arrivent à la fin en disant « j'ai envie d'écrire, j'ai envie de lire, j'ai envie de découvrir ces personnages ». Donc je crois qu'il y a encore beaucoup d'endroits où la littérature peut faire rêver, et je crois que ça ne dépend que de nous. Souvent on me demande comment on fait pour faire lire des enfants. Je dis, lisez devant vos enfants. Et si vous lisez devant vos enfants, ils vont se dire, mais quelle est cette chose mystérieuse que fait maman et qui a l'air de la rendre heureuse, et peut-être qu'il se mettra à lire lui aussi.
Comme Alberto Mangel qui lisait pour Borges. Et vous, Alberto Mangel?
Je pense que la lecture continue à avoir une importance fondamentale dans la vie des personnes qui s'interrogent sur la vie. J'ai vu ça, par exemple, au Mexique. Au lieu de la violence plus intense, des familles, des femmes, parfois, font des groupes de lecture et la violence cède à cette action de lecture. Et si bien les réseaux sociaux continuent, évidemment, et ont leur importance, la lecture de ces classiques, de ces personnages profonds, a toujours une importance vitale, et j'emploie le mot vital dans son vrai sens, dans des lieux de conflit. J'ai vu ça au Yémen, j'ai vu ça en Colombie, j'ai vu ça à l'Argentine de la dictature. La littérature, comme disait Flaubert, lisait pour vivre.
Merci Alberto Mangel. Lisez pour vivre. Lisons pour vivre. Merci beaucoup Alberto Mangel. Merci Leïla Slimani.
Merci.
Je rappelle le titre
Merci.
De vos ouvrages. Leïla Slimani, Le pays des autres. Première partie, La guerre. C'est chez Gallimard. Alberto Mangel, Monstre fabuleux, Dracula, Alice Superman et autres amis littéraires. C'est chez Actes Sud. C'était le temps des écrivains avec Anne-Catherine Lochard, Jean-Christophe Francis à la réalisation et Cédric Châtelut à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter. podcastée à l'infini sur franceculture.fr, cette émission en compagnie de Leïla Slimani et d'Alberto Manguel.